Bonjour, bienvenue dans La Mort, tout un art. Je suis Lucille Lamilliard, la réalisatrice. Tous les mois, je m'entretiens avec des artistes qui traitent du sujet de la mort et avec des professionnels du funéraire qui font de leur métier tout un art. J'ai choisi, avec ce sujet, de mettre en lumière les initiatives remarquables, locales et humanistes dans le monde du funéraire. C'est parti! Aujourd'hui, vous entendrez un ancien épisode. Je l'avais diffusé l'an dernier dans sa version courte. Et c'est cet entretien qui a été le déclic pour passer d'un format de 15 minutes à 45 minutes. Dans cet épisode, nous dialoguons avec Aymeric Lenné, cofondateur de 3Hit Combo et du Stunfest. Nous parlons mort et jeux vidéo, un domaine que je connais peu et où Aymeric Lenné a su m'emmener grâce à sa pédagogie. Plus qu'une sélection de jeux vidéo, Aymeric Lenné donne à entendre toute sa réflexion du jeu au sens large et apporte des éclairages sur des aspects néfastes ou bien salvateurs en fonction de comment il est utilisé. Je vous laisse découvrir cet épisode dans son intégralité.
La mort, tout un art. L'art de jouer sa vie et de vivre la mort dans les jeux vidéo avec Aymeric Lenné. La mort est un sujet omniprésent dans l'art. De ce fait, il est représenté aussi dans les jeux vidéo. Quand je me suis lancée dans cet épisode, j'avais en tête les jeux vidéo où l'on a plusieurs vies, symbolisées par des cœurs qui s'éteignent à chaque fois que nous perdons une vie. J'avais également en tête des jeux de guerre hyper réalistes où on tue et où on meurt avec le sang qui gicle à l'écran. En creusant, je me suis aperçue que c'était bien plus vaste que cela. J'ai donc eu envie de faire appel à vous, Aymeric Lenné, cofondateur de 3Hit Combo, pour échanger sur ce sujet. Aymeric Lenné, vous voulez bien vous présenter ainsi que votre association ?
Tout à fait. Alors, cet asso est une de mes principales activités aujourd'hui. Parfois, j'œuvre au-delà, souvent autour du jeu, autour des pratiques numériques au sens assez large du terme, et de fait, via 3Hit Combo, du jeu vidéo en particulier. Je suis directeur de cette structure aujourd'hui, qui s'est professionnalisée au fil du temps, qui est une structure culturelle, qui se définit en disant qu'elle est là pour promouvoir, développer et promouvoir le jeu vidéo comme source de lien social et de créativité. On est une asso culturelle, comme tant d'autres, qui pourraient œuvrer autour de la musique, de la danse, des arts, mais nous c'est le jeu vidéo. Voilà, donc on est une petite équipe de 7 personnes et de bénévoles autour de nous qui œuvront à l'année auprès de tout public, mais puisque éducation et médiation auprès de scolaires, dans les médiathèques, dans les centres culturels, pour parler, faire, comprendre, découvrir du jeu vidéo. Et on produit une fois par an, depuis 18 ans maintenant, le festival Stunfest qui traite de ces cultures du jeu vidéo au sens large.
Alors, en lisant des articles sur le sujet de la mort et du jeu vidéo, et en échangeant ensemble, nous arrivons à une sélection de jeux vidéo que je me suis permise de classer par catégorie. La première catégorie, ce sont les jeux vidéo où on a plusieurs vies, et même dans certains où il faut nécessairement mourir pour progresser.
C'est le cas, en effet. C'est très souvent le cas dans le jeu vidéo d'avoir cette notion de vie qui peuvent être affichées à l'écran ou pas, mais on comprend qu'on en a une d'une certaine manière au moment où la partie, c'est pas qu'elle se termine, mais elle s'arrête et elle va reprendre un certain stade parce qu'on a perdu tous ses cœurs, toute sa barre de vie. Dans certains jeux, ça apparaît pas à l'écran et c'est dans des jeux narratifs, ça va être une discussion qui arrive à une sorte de voie sans issue et donc le jeu va revenir avant. On n'est pas mort littéralement dans le jeu, mais on comprend que on est arrivé à une issue sans fin. Et ça, c'est quelque chose qui est très très propre aux jeux vidéo, qui a été aussi analysé. Je donnerai quelques références à certains endroits parce que voilà, c'est pas tant moi qui détient un savoir. Je pense à Mathieu Triclot, qui est un chercheur en philo à l'université de Belfort-Montbéliard, qui a écrit Philosophie des jeux vidéo, qui parle de Pac-Man parmi les premiers jeux vidéo d'arcade connus dans les centres commerciaux aux États-Unis dans les années 80, et de dire que le propre même de Pac-Man, c'est ça, c'est la vie et la mort. Au sens, le jeu s'anime déjà, il est en vie à l'écran, on voit son personnage bouger. C'est pas encore notre personnage, ça le devient quand on met une pièce dans la machine, qu'on commence à s'en emparer, à pouvoir agir avec. Et si on se fait manger par un fantôme, on meurt et on va recommencer. On a trois vies avant de faire game over, de vraiment mourir entre guillemets, mais cependant jusqu'à remettre une autre pièce et ça peut repartir. Et que cette alternance entre vie et mort dans les jeux d'arcade, elle était sciemment pensée, calculée par les game designers pour produire deux choses, pour produire du fun. Le fun, ça c'est un autre auteur qui le définit, il y a une théorie du fun, c'est Ralph Koester qui a écrit ça, le fun c'est un juste équilibre entre plaisir et frustration. Je pourrais presque, en tirant les deux, dire un juste équilibre entre le plaisir de rester en vie et la frustration de mourir à certains moments. Ça peut être sous plein d'autres manières dans le jeu vidéo, mais là c'était ça. Et si on maintient ce bon équilibre entre le plaisir d'y arriver et la frustration de mourir à certains moments et de recommencer en étant un peu meilleur, alors c'est le plaisir, le plaisir de jouer. Et le deuxième point, propre à des jeux d'arcade où on installe une tension dans le jeu, cette tension un peu entre la vie et la mort, c'est que cette tension elle donne envie de recommencer, de remettre une pièce. Et c'était des jeux commerciaux, il faut le dire. Donc je raconte ça ici, est-ce que ce rapport entre la vie et la mort dans le jeu vidéo, il a aussi été entretenu avec un objet qui est mercantile aussi, et où le fait de mourir, c'était le fait de pouvoir payer pour recommencer à jouer.
Dans votre sélection, vous parliez aussi de Super Meat Boy. Est-ce que vous voulez en parler ?
Ouais, Super Meat Boy, c'est un jeu beaucoup plus récent. Mais je pourrais aussi... Je me référais au jeu d'arcade des années 80. Super Meat Boy est beaucoup plus récent. Il est arrivé dans les années 2010. Et il exploite à fond ce principe qui était un peu là dans les premiers jeux vidéo, mais où il fallait remettre sa pièce, ce qui a été qualifié de « die and retry ». Je meurs et je réessaie. Ça, c'est tout à fait propre aux jeux vidéo, dont un des critères principaux, c'est de simuler un environnement dans un jeu vidéo. Soit on simule une réalité, soit on simule un univers fictif, mais en tout cas, nous, en tant que joueurs, joueuses, en tant qu'humains, on comprend qu'on est dans un monde simulé à l'écran. Il peut être très abstrait, il peut être très réaliste, mais on comprend qu'on est dedans. Et puisque c'est une simulation, on peut faire de l'essai-erreur dedans. On peut tenter quelque chose, et puis si ça loupe, c'est pas grave. Si c'est dangereux, c'est pas grave. Si je me fais couper la main dans un jeu vidéo, c'est qu'un jeu vidéo. Et on est vraiment sur les rapports fondamentaux du jeu des enfants, de dire « mais c'est pour de faux, c'est pas grave, on joue à se tuer, et c'est pas grave ». Et dans Super Meat Boy, c'est un des... Il y en a eu plein des jeux qui exploitent ce principe de « die and retry », mais Super Meat Boy le poussait au maximum, en allant aussi dans les codes de ce qu'on appelle une pratique performative qu'on appelle speedrun dans le jeu vidéo. Terminer un jeu le plus vite possible et à plus forte raison avec le degré de difficulté le plus élevé, donc le risque maximum de mourir. Et dans Super Meat Boy, quand on meurt, on recommence au début du niveau, mais immédiatement. Il n'y a pas de quelques secondes de temps de chargement, de réintroduction du niveau, c'est immédiat. Et on voit une sorte de fantôme, je n'ai pas d'autres mots pour ça, mais de fait les mots ne sont pas choisis au hasard, du parcours précédent qu'a fait son personnage. On navigue sur des plateformes, et il y a clairement, alors c'est gros comme une maison, hein, c'est des scies circulaires qui tournent, c'est des pics, c'est des haches, c'est des plateformes qui peuvent te compresser, et le Super Meat Boy c'est un morceau de viande, donc s'il se fait découper, pff, gerbe de sang à l'écran. Tout ça est bien sûr fait complètement exprès, c'est pas du tout un jeu qui tourne dans le gore qu'on peut avoir dans certains jeux sciemment violents. Là c'est plutôt, on oscille entre un rapport un peu cartoon, dessin animé et ces effusions de sang, mais je crois que le jeu est pas interdit pour autant, au moins de 16 ou 18 ans, rien à voir. Et on est à fond dans ce Die and Retry, dans Super Meat Boy, il n'y a pas de logique de vie, on peut mourir 10 fois, 100 fois, 1000 fois, il n'y a aucun souci. Le fait est que c'est dur de passer parmi les obstacles du jeu et le jeu prend en considération le fait qu'on va devoir mourir des dizaines, des centaines de fois pour y parvenir et qu'on va y prendre du plaisir. J'utilise pas d'autres mots hein, mais parce que je parlais de fun et dans le jeu vidéo il y a il y aura toujours cette notion de fun, même si on est dans un jeu, on en parlera sûrement après, de jeux qui sont dans des logiques narratives, qui vont chercher dans les sentiments, dans les émotions, etc. Mais on aura toujours ce rapport de fun, qui fun veut pas forcément, est pas forcément associé à plaisir, mais à une logique de tension, comme quand on est happé par quelque chose, happé par un livre, happé par un film, happé par une discussion. Je crois que le fun, je le situe là. C'est pas littéralement. Il y a une part de plaisir dans cette tension. On peut être happé par un bouquin qui parle d'une histoire sordide, et pourtant on ressent une forme de, ouais, peut-être de plaisir, parce que on est entièrement dans ce que l'on fait à ce moment-là.
Vous m'aviez parlé de Dead Cells, qui est aussi sur le fait de Die and Retire.
Tout à fait.
Avec beaucoup d'humour, je trouvais dans la bande-annonce de ce jeu vidéo.
C'est un jeu français qui a eu un énorme succès. Il a été produit par un studio qui s'appelle Motion Twin, qui est basé à Bordeaux, qui a eu son succès. Ce qui aurait pu être un petit projet chez eux, qui en fait a eu un succès fou. C'est un jeu qu'on nomme, il y a des noms farfelus dans le jeu vidéo pour les classifier parfois, c'est un roguelite. Alors, roguelite, c'est l'idée de je vais explorer des mondes, souvent cavernes, un peu enfouies, qui regorgent autant de monstres et d'ennemis que de trésors et d'objets à acquérir pour augmenter les compétences de son personnage, des armes, des armures, des potions, des grimoires, etc., etc. Le roguelite va chercher un petit peu dans les codes du jeu de rôle, au sens j'ai un personnage, il a des attributs, et au fur et à mesure de la partie, j'augmente ses attributs en fonction de ce que je vais trouver dans le jeu. Dead Cells, il est venu amener quelque chose de très particulier là-dedans. Alors, un, les niveaux sont génératifs. Ils n'auront pas toujours la même... ça s'apparente un peu à des labyrinthes. Le labyrinthe ne sera pas le même. Je recommence plusieurs fois le niveau, ça va être généré. Donc, il ne faut pas espérer m'y retrouver littéralement une fois sur l'autre. On trouve son chemin d'autres manières. On va mourir, fatalement. On navigue en effet entre un monde assez sombre... et sur l'humour que vous définissiez, il y a un fort aspect narratif sur le sorte de voix off, mais qui est la voix du personnage, semble-t-il, mais aussi les personnages qu'on peut croiser dans le jeu, ou les indices, les noms des objets, c'est bourré d'humour et de jeux de mots. Et quand on meurt, on revient soit au début du, non pas du niveau, mais du jeu, mais en ayant conservé des attributs, certains des attributs seulement qu'on a récupérés pendant sa première partie. Et donc on a l'impression que le jeu, on pourrait avoir l'impression que le jeu est un éternel recommencement, sauf qu'au bout de 100 parties, où on n'a pas refait exactement 100 fois le même jeu, parce que comme les niveaux se reconfigurent, ça reste cool, on est toujours à explorer, essayer de retrouver son chemin, et on repart avec plus de force, plus d'armes, etc. Et le jeu réussit à installer un excellent équilibre entre le fait de mourir, mais de revenir avec quelque chose qu'il a, plus que le Die and Retry évoqué dans Super Meat Boy, qui serait un peu de l'ordre de la réincarnation. Je reviens, alors un peu sous la même forme, avec d'autres attributs, donc pas exactement sous la même forme, mais je vais aller plus loin grâce à ces attributs précédemment attrapés. Le jeu s'appelle Dead Cells, il porte bien son nom, c'est que quand on meurt ou quand on tue des ennemis, on récupère des... cellules, entre guillemets, un peu comme les âmes des items des personnages que l'on tue sur son chemin et qui viennent nourrir quelque part notre propre âme. Donc le jeu, c'est des jeux où c'est intéressant parce qu'ils ne viennent pas tenir un discours sur la mort, mais en fait c'est imbibé de choses à dire sur la mort, sur la vie et la mort.
Oui, quand on meurt, on retrouve ce personnage, un sage, un maître, avec la capuche, on ne le voit pas, et qui nous redonne la vie. Enfin, c'est...
Oui, ouais. Tout à fait. Ouais, il y a une sorte de Deus Ex Machina qui alimente tout ça. Je vais être honnête, je n'ai pas terminé ce jeu. J'y ai passé quelques heures, mais je ne l'ai pas terminé. Donc je ne saurais pas dire s'il y a une certaine issue au jeu qui donnerait une lecture sur le pourquoi du comment du jeu.
Bah comme ça, on spoile pas.
Mais voilà. ça fait partie de mes... je vais le dire ainsi, c'est peut-être un méta-sujet dans ce qu'on raconte, de mes vies de joueur. J'ai plus autant le temps que je voudrais pour jouer à des jeux vidéo. Alors j'en essaye pas mal et je les finis pas toujours. C'est le cas aussi avec des bouquins, parfois avec des films. Mais avant, j'ai beaucoup plus joué et puis j'attachais beaucoup d'importance à terminer un jeu. et elle terminait peut-être justement avec cette notion de vie et de mort, sans mourir, elle terminait bien, elle terminait jusqu'au bout. Et puis maintenant, pour moi, c'est un peu moins important. Donc je peux tout à fait avoir plaisir à jouer à un jeu sans le terminer, et de peut-être d'une certaine manière rester mort au milieu de la partie, puis c'est pas grave, on passe au suivant.
Est-ce que c'est parce qu'il y a aussi une forte production de jeux vidéo, donc
Il y a de ça, mais en même temps, dans les époques où j'avais plus de temps pour jouer et où je joue aussi à d'autres types de jeux, je pense que dans les différentes... Ce que je raconte sur les vides joueurs, j'avais entendu, c'est Alexis Blanchet, un chercheur historien du jeu vidéo, que j'avais entendu parler de cette notion d'avoir des vies de joueurs. J'avais trouvé ça intéressant. Et en effet, je ne jouais pas au même jeu quand j'avais 10 ans, 20 ans, 30 ans. J'en ai 40 et quelques. Mais la production, quand j'étais, je sais pas, enfant ou ado ou jeune adulte à jouer à du jeu, il y en a toujours eu trop pour jouer à tous. Mais en effet, aujourd'hui, c'est plus de 4000 jeux par an qui sortent. C'est juste impossible de jouer à tout. Au mieux, on entend un petit peu parler des choses les plus connues, mais on peut pas être partout.
On part sur la deuxième catégorie.
Allons-y.
Des jeux vidéo dont le thème est la mort ou le deuil.
On pourrait presque avoir un échange là-dessus, parce que je pense pas avoir joué à tant de jeux que ça dont le thème est la mort. J'en connais, j'ai bien vu passer ceux qui ont traité le sujet, et cependant j'en ai pas été tant joueur que ça. Donc c'est en effet assez récent, des jeux dont le thème est la mort au sens... alors peut-être que j'ai mal saisi là le thème qu'on aborde, mais des jeux où le thème serait la mort au sens, je vais dire réaliste du terme. Je pourrais dire que Dead Cells, dont on a parlé tout à l'heure, pourrait dire que le thème est la mort aussi, mais il n'est pas déclaré en tant que tel. Le jeu est imbibé d'eux, mais ça ne le dit pas. Les jeux auxquels je pense là, c'est des jeux comme... un des premiers, je pense, qui m'est marqué, qui a fait parler de lui il y a quelques années, c'était The Dragon Cancer, où clairement les développeurs du jeu ont parlé... alors le sujet de la mort, mais à travers le sujet de la maladie et d'un couple de parents qui ont un enfant atteint d'un cancer. Et on est clairement là sur de l'œuvre du jeu qui vient traiter un sujet aussi pour le traiter pour eux-mêmes. Je crois savoir, je ne veux pas trop m'avancer, j'ai un petit doute moi-même, mais que les auteurs mêmes du jeu ont vécu cette situation et l'ont écrit, l'ont traité, je pense, aussi à travers un jeu, comme on peut écrire, et ça fait du bien d'écrire ou de chanter ou de tourner un film sur un sujet pour s'en emparer. Et moi, j'ai pas une science infuse en jeu vidéo. Peut-être que d'autres exemples de jeux ont pu préexister à ça, certainement. Mais celui-ci, à ma connaissance en tout cas, est un des premiers que j'ai entendu avoir un rapport très personnel, de l'ordre de l'intime, même entre les auteurs du jeu, le jeu qui est fait, et de fait, pour qui y joue. Je pense que les personnes qui y ont joué, alors sans avoir été soi-même touché par un proche, à plus forte raison par un enfant malade, atteint d'une maladie grave, c'est tout de suite un sujet qui va les toucher, qui va les émotionnellement toucher les joueurs, les joueuses, et qui, je ne serais de fait pas le meilleur placé pour ça, mais je pense que des gens qui y ont joué, qui ont eux-mêmes été touchés par une histoire semblable, ça provoque des choses fortes, puisque de fait, le jeu vidéo... Alors quand je dis ça, je ne le mets certainement pas ni au-dessus ni en dessous de ce que d'autres médiums peuvent produire en termes d'émotions, de passage de messages. Je pense qu'on peut être autant touché au fond du cœur par un film que par un jeu vidéo. Mais que cependant, sur certains sujets, quand la manière est bien amenée, un jeu vidéo peut aller assez loin dans la manière d'impliquer une personne dans la partie. Je vais être honnête, The Dragon Cancer, je vais aussi le dire ainsi, c'est un jeu que j'ai vu jouer, que j'ai vu être joué, dont j'ai regardé des parties. Et ça, c'est une de mes manières fréquentes de consommer du jeu vidéo, et je pense pour beaucoup de gens aujourd'hui aussi, de par ce qu'est Twitch, de par ce qu'est YouTube, et de voir des personnes jouer à des jeux, et pour certains jeux, ça me suffit, ça suffit à plein de gens, de dire tiens, ça je vais en regarder une partie, et je vais regarder quelqu'un en parler, et ça me va comme ça. Donc The Dragon Cancer, je n'y ai pas joué manette à la main. Et quelques autres de la sorte ont pu exister. plus récemment, le jeu qui a beaucoup fait parler de lui, auquel je n'ai pas joué non plus. Mais pour moi, il n'y a aucun problème à citer des jeux auxquels je n'ai pas joué. Des fois, des gens disent « Non, mais moi, je ne suis pas expert, je ne joue pas aux jeux vidéo, donc je n'en parle pas. » Bah, et alors, si tu en as entendu parler, tu as un avis dessus. Et c'était Spiritfarer, où là, c'est un... je pense qu'il y a une symbolique à plein de couches, à nouveau, n'ayant pas joué en détail, mais peut-être que rien qu'en parlant, ça peut donner envie à des personnes de s'y essayer. Je crois qu'on est sur cette image vieille dans l'histoire de l'humanité, du passage de la vie à la mort, et de qui a souvent été symbolisée par des embarcations ou des véhicules sur lesquels le corps du défunt embarque pour passer vers un au-delà. Des fois, c'est un bateau auquel on met peut-être le feu. Ça peut être des véhicules parfois imaginaires qui nous emmèneraient vers les cieux ou vers les profondeurs de la Terre. Et dans Spiritfarer, on est sur une histoire de la sorte, avec là une embarcation. Et je pense tout un univers narratif qui est tissé sur cette... si je traduisais littéralement le jeu, il y a la conduite des esprits, quoi, la conduite des âmes vers autre chose. Donc quelques jeux vidéo comme ça sont venus littéralement traiter concrètement et en le nommant le sujet de la mort, à essayer pour les curieuses et curieux. Parce que ces deux jeux-là que je cite, et j'en oublie certainement d'autres, sont des jeux qui ont vraiment fait parler d'eux parce qu'ils revêtent une forme d'esthétique assez singulière, tant dans la narration, dans le traitement graphique, à l'image, dans la bande-son, etc.
Mais je vais en citer un autre auquel je n'ai pas joué, qui est Gris.
Oui.
Qui est plutôt là sur le deuil.
Oui.
Alors on peut jouer sans être soi-même en deuil, voilà, mais en tout cas, il traite du deuil, et il fait passer par les différentes étapes du deuil. Il n'y a pas de parole, il n'y a pas, oui, pas de voix.
Tout à fait.
Pas de texte.
Pour le coup, lui, j'y ai joué. Alors c'est singulier parce que Gris, j'y ai joué dans les pratiques de jeux vidéo. Je peux parler de jeux auxquels j'ai joué moi, de jeux que j'ai regardé d'autres jouer. Et Gris, on y a joué à plusieurs avec des collègues. À se passer la manette quand l'un ou l'une ou l'autre d'entre nous perdait, mourait dans Gris. Et que c'est aussi une manière de jouer à du jeu. C'est un jeu solo, Gris, a priori, mais des fois c'est chouette de jouer à plusieurs. Et c'est singulier parce que je sais bien que, conscient de la teneur du jeu, du sujet qu'il traite, on y a joué de manière... c'est un jeu de plateforme, enfin... Oui, c'est un jeu de plateforme qui nécessite quand même un peu de réflexe et d'action, là où Spiritfarer et Dragon Cancer sont des jeux beaucoup plus narratifs ou qui font beaucoup moins appel à de la dextérité. Et Gris, on y a plus joué avec un plaisir grisant, sans mauvais jeu de mots, parce que le jeu va vite, fait filer un peu, nous emporte, si on se débrouille pas trop mal, si on saute, si on virevolte comme il faut, ça part et on passe à travers des longs niveaux qui s'enchaînent, qui jouent avec ça, avec cet effet de plaisir d'avancer dans quelque chose, mais avec cependant, je réutilise le mot de plaisir, je l'utilise spontanément, alors que le jeu se déroule dans un univers qui est de fait, alors je pourrais dire sombre, mais en fait, je suis là quelque part aussi dans ce... pas un préjugé, c'est plutôt un cliché de la mort. Si mort, alors on serait dans le sombre, dans le malheur, dans... Mais en fait, Gris ne le traite pas littéralement comme ça. On est plutôt dans le deuil au sens tristesse. Le jeu est aussi beau que triste, en fait. Moi, j'y ai joué comme une balade. Je pèse mes mots en disant balade, en pensant balade du pendu un peu, mais comme une promenade à travers un univers esthétique. Et en effet, non, alors il y a un peu d'audio quand même, mais en effet, ça reste silencieux, quoi. Ça installe, c'est un univers ouaté. Gris, ouais, c'est une chouette expérience. Il a aussi beaucoup fait parler de lui pour cette esthétique si particulière. Где мы с вами встретились, ваш любимый куст хризантем расцвел, и в моей груди расцвело тогда
чувство яркой, нежной любви.
Отцвели,
отцвели
уж давно,
уж давно
хризантемы в саду.
А любовь
все живет в моем сердце больном.
Опустел наш сад, вас давно уж нет, и я брожу одна, вся измучена, и невольные слезы катятся пред увядшим кустом хризантем.
Отцвели уж давно,
уж давно
хризантемы
в саду.
А любовь
все живет
в моем
сердце
больном. Отцвели
уж давно
хризантемы
в саду.
А любовь
все живет
в моем сердце больном.
C'était Chrysanthemi, un chant russe interprété par Estelle Ami de la Bretek et Elie Guillou du collectif Chant Funérailles. Chant Funérailles, c'est un collectif de musiciens et de musiciennes qui jouent lors des cérémonies funéraires civiles. Vous écoutez La mort tout un art, on continue notre discussion avec Aymeric Lenné sur la mort et le deuil dans les jeux vidéo.
Troisième catégorie, c'était les jeux réalistes. J'avais mis plutôt The Dragon Cancer là-dedans, mais c'est pas grave du tout. Dans les jeux réalistes, vous parliez de jeux où la réalité rencontre le jeu donc, et la mort. Dans les jeux sérieux créés ou alimentés par l'armée, comme America's Army.
Oui, je donne là un exemple. C'est particulier d'aborder la réalité de la mort dans le jeu par cet angle-là. Vraiment, je pense qu'il y aurait... plein d'autres exemples que d'autres auraient donné, mais c'est celui-ci qui me revient à l'esprit parce que ce jeu m'avait interpellé, il date hein, et il y a eu d'autres expériences de la sorte, mais celui-ci m'avait interpellé début des années 2000, il y a une vingtaine d'années où l'armée américaine a créé, ou plutôt fait créer son jeu vidéo d'armée de guerre, ni plus ni moins de simulation de guerre, mais assez réaliste, qui était diffusé gratuitement et qui était utilisé comme un outil de propagande en fait, et qui leur servait à repérer via le jeu des bons comportements pour eux d'organisation entre soldats en tant que fil de commandement, etc. Et je trouve que ça entretenait un rapport assez singulier, parce que pas forcément clairement déclaré quand on rencontrait le jeu en ligne, à distance. On pouvait autant rencontrer le jeu sur un stand avec un stand de l'armée qui vous dit ça c'est notre jeu. Mais de rentrer dedans par une voie détournée et de se retrouver recontacté parce qu'on vous a dit vous avez été super efficace dans cette mission à battre X personnes devant vous. Et que ce jeu venait entretenir une limite assez ténue entre la réalité, une dure réalité de la mort, en l'occurrence celle de la guerre, et le jeu vidéo, là où le jeu vidéo faisait tout ce qu'il pouvait, évidemment, pour être un bon jeu vidéo, donc qui à nouveau provoque du fun, du plaisir dans ce qu'il donne. Par extension, en citant ça, ce jeu-là et d'autres ont donné lieu à un certain nombre de méthodes et d'outils au sens contrôleur aussi qui sont utilisés dans pour piloter des avions de chasse, des drones à distance avec des contrôleurs de jeux vidéo. Peut-être qu'on s'éloigne du sujet quand j'aborde ça, mais de dire que le jeu vidéo, ça peut sembler dur ce que je dis, mais peut devenir, par des biais directs ou indirects, un des instruments de la mort. Et c'est une réalité. Or, quand je dis ça, je suis le premier à ne pas vouloir qu'un fait devienne l'arbre qui cache la forêt, qui vienne abonder sur les discours de jeux vidéo égale violence, parce que je crois qu'on va aussi sur ces terrains-là, sur les très nombreux raccourcis qui sont faits lorsque des fusillades, des tueries ont lieu, et de dire c'est la faute aux jeux vidéo. Je ne pense pas qu'on ait aussi là beaucoup de temps pour développer la chose, mais je crois qu'il y a aussi des rapports entretenus qui sont parfois biaisés, voire pervers aux jeux vidéo, qui ont sûrement des bouts de vérité, mais qu'il faut manipuler avec beaucoup de précaution, parce que les recherches scientifiques en la matière prouvent plutôt que le rapport il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus indirect que ça, et que le jeu vidéo, pour des personnes qui auraient des comportements mauvais, mais j'allais dire mauvais tirant à la mort, soit pour aller vers l'assassinat de personnes, mais aussi j'ai pu échanger avec des personnes, une fondation côté Québec qui essaie de faire de la prévention au suicide à travers le jeu vidéo. Je mets les deux de chaque côté, avec des fois des discours entretenus du jeu vidéo qui peut autant être le déclencheur de crime que un élément salvateur. Donc je sais pas, j'évoque ce qui me passe par la tête là au fil de l'eau, et je vois que le jeu vidéo peut être l'un comme l'autre, et peut être autant dans ce rapport à la réalité de la mort dans ou avec le jeu vidéo quelque chose, où ce rapport à la simulation que j'évoquais au début de nos échanges peut entretenir des rapports très 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 étroits avec la manière où le lieu du jeu vidéo va devenir un endroit où on résout quelque chose entre le réel et le virtuel à travers l'épreuve de la simulation.
C'est passionnant. Enfin, j'avais pas pensé à aller sur ce terrain-là, j'avais pas du tout en tête, mais effectivement.
Oui, c'est encore un autre champ qu'on n'avait pas cité, mais un peu méta-jeu autour du jeu, mais sur lequel le jeu a une influence. Et ce n'est, à nouveau, je dis le jeu sciemment, et c'est pas que le jeu vidéo, c'est que le jeu, tout court, qui est une activité assez fondamentalement humaine, ou universellement humaine. On joue toutes et tous, on a joué ou on jouera. On apprend en jouant, on se découvre en jouant, on essaye, on se trompe en jouant. Et dans les écrits qui peuvent exister sur le jeu, là je pense à Des jeux et des hommes, le nom de l'auteur m'échappe au moment où je le dis, je vais le retrouver, qui est un ouvrage de sociaux des années 60, Roger Caillois. A écrit ce bouquin, et donc le jeu vidéo c'était les prémices du jeu vidéo. Il n'en parle pas du tout dans son livre, c'était tellement les prémices qu'il n'était pas question de les traiter pour lui, mais il fait une classification des jeux au sens très large. Donc il va partir du jeu libre de l'enfant, faire des galipettes, c'est du jeu, au jeu réglé des enfants aussi, je prends des cailloux dans la rue, je dis que c'est des vaisseaux, et puis c'est parti, on joue. Il y a une règle, et tout à coup c'est réglé. C'est pas pareil que faire des galipettes ou de la balançoire. À des jeux réglés plus complexes, je pourrais dire, de jeux de société, dames, échecs, etc. Mais il parle aussi du jeu théâtral, qui est une autre forme de jeu, ou qui invoque dans le jeu vidéo l'avatar, je me grime, et on va rentrer dans un espace, un temps et une fiction qui installe le jeu. Il parle de certaines formes perverses du jeu, qui sont d'ailleurs parmi les premières formes pratiquées par les humains, où on va s'entretuer, on va jouer à se tuer, les jeux de gladiateurs, les jeux du cirque, Mais je crois qu'on n'a pas attendu Rome pour faire des jeux où on s'entretue, quoi. Le duel, on pourrait être codifié et certaines de ces choses étaient dans des formes de jeux. Ou des jeux encore pratiqués aujourd'hui, je crois, dans certaines régions du globe où voilà, jucher sur un cheval, l'objet, le matériel du jeu, c'est pas un ballon, mais c'est un cadavre de chèvre qu'on se passe. Hein. Et la mort est déjà là. Donc certaines formes de jeux peuvent aller très loin. Il parle d'autres formes de jeux perverses sur les jeux d'argent. Mais la mort est là dans le jeu. La mort est complètement là dans le jeu. Et évidemment, il parle, dès ces analyses-là, des jeux de mort simulés qu'ils sont dans plein de jeux. Les échecs, c'est un terrain de guerre simulé sur un plateau. Et on s'entretue, ni plus ni moins. C'est juste des pions sur un quadrillage, pas de problème, mais on se tue. Des jeux de guerre simulés sous des tentes de généraux, il y en a depuis belle lurette. Et je reviens donc à pourquoi je parlais d'America's Army, du rapport entretenu avec la mort, où le jeu devient un moyen de simuler et donc de résoudre parce qu'on va pas vraiment mourir dedans, et de traiter ce phénomène de la mort qui de fait nous échappe et est mystérieux. On sait tous qu'on va y passer, mais on ne sait pas pourquoi, comment et quand, et vers où, peut-être ou pas. Et le jeu est un des excellents moyens de s'en emparer et de le traiter.
Alors tout ceci nous amène à la quatrième et dernière catégorie, justement sur la mort d'un joueur. Donc là, on sort un peu de la sélection de jeux vidéo. Mais pour concocter cet épisode, je me suis inspirée de l'article de Pierre Arpade, intitulé « Vivre le deuil dans le jeu vidéo » sur son blog Techné Vidéoludique. Et à la fin de son article, il fait mention de deux cas où des personnes ont vécu leur deuil grâce au jeu vidéo. Alors le premier cas vient d'une courte bande dessinée qui raconte comment un fils a donné à sa mère, malade, le jeu vidéo Animal Crossing pour qu'elle occupe ses journées. La mère est devenue une vraie accro au jeu. Et après le décès de la joueuse, le fils relance le jeu. Il découvre que pendant un an, sa mère avait envoyé des cadeaux à son avatar en espérant lui faire plaisir. L'auteur ajoute « Il peut s'agir là d'une forme de e-deuil, les cadeaux ayant traversé le temps pour rappeler au fils combien sa mère l'aimait. » Cette notion de e-deuil, vous aviez déjà connaissance de cette notion-là ?
Pas avec cette appellation, mais qu'on comprend vite. Je n'avais pas cet exemple-là. Cependant, je pense que c'est quelque chose qui a pu être pratiqué dans les communautés de jeux en ligne assez tôt. Peut-être pas jusqu'à aller... Enfin, c'était aussi très dépendant de ce qu'il était possible de faire dans le jeu. Créer un item dans un monde persistant en ligne, tel qu'une stèle, n'était pas forcément possible dans tous les jeux. J'aurais pas de référence, mais je serais à peu près certain que sur des communautés de joueurs qui de fait vont être très soudées entre eux, des gens se retrouvent en ligne, parfois pendant des années, sans s'être jamais rencontrés IRL, comme on dit, dans la vraie vie. Et de fait, derrière ces liens forts, si une de ces personnes vient à décéder, ça me semble évident que pour ces joueurs, c'est dans le jeu qu'ils vont se retrouver pour... célébrer le passer un temps ensemble autour de la mort de leur ami, de leur compagnon, de leur camarade de jeu. Donc je connaissais pas cet exemple, mais j'en suis absolument pas surpris. Je pense qu'il en existe très probablement d'autres. Et là où je connaissais d'autres exemples, on n'est pas dans le jeu vidéo, mais de e-deuil, ça fait quelque temps que certains réseaux sociaux sont emparés de la chose en permettant de créer des pages où on va venir sceller justement la page d'une personne en laissant ou pas la possibilité de laisser des messages derrière. Donc dans le jeu vidéo, pas surpris. Peut-être à la limite, ce qui m'aurait surpris, je vais le dire à la blague, ce qui m'aurait un peu surpris mais pas tant que ça, c'est mais comment ça se fait que personne n'en ait encore fait une entreprise, qu'il n'y ait pas des services de e-deuil dans du jeu vidéo, parce que la mort, quand on l'a subie pour un proche, on a besoin de ces accompagnements. Enfin bref, l'humain a toujours eu besoin et c'est normal de célébrer, de marquer la chose et d'être entouré, accompagné. Donc dans le jeu où des choses fortes peuvent arriver entre personnes, pas surpris du tout. Et j'ai envie de raconter une référence, alors là, à un livre, mais qui parle de jeux vidéo, qui s'appelle « Le jeu continue après ta mort ». Je n'ai plus l'auteur en tête, malheureusement. Je sais que le livre était librement accessible sur le net, c'est un auteur qui l'avait publié en version numérique. Et on va aller sur ce lien entre le jeu vidéo et la logique de réseau social, parce qu'après tout, je pense que certains réseaux sociaux, Mathieu Triclot, dans Philosophie du jeu vidéo, va jusqu'à dire, mais qu'est-ce qu'il y a de si différent entre un réseau social et un jeu vidéo ? On incarne un avatar, on interagit avec d'autres personnages, on remplit certaines logiques de quêtes, on avance. C'est notre vie, mais c'est pas vraiment notre vie, etc. Et donc, dans le jeu continue après ta mort, l'auteur raconte l'histoire d'un personnage qui jouait à du jeu vidéo. Il était très connu pour ses faits de joueur, jouait même à plusieurs jeux vidéo, était de fait présent sur des réseaux sociaux à côté. Il ne les cite pas, mais on est un peu dans une dystopie, on pourrait tout à fait imaginer que les réseaux seraient ceux qu'on connaît aujourd'hui et certains des jeux vidéo qu'on peut connaître par ailleurs. Et ce personnage a été connu parce qu'il a hacké, piraté les systèmes de ces plateformes en ligne, autant jeux vidéo que réseaux sociaux, et il les a hackés au sens où il a réussi à les interconnecter, à dire... Je vais en citer, même si ce n'est pas ceux qui sont cités dans le livre. Ton avatar Facebook, il peut aller se balader dans Skyrim. Ton avatar Skyrim, il peut s'exprimer sur Twitter, etc., etc. Et ce hack a eu un retentissement extraordinaire qui a interconnecté les communautés en ligne et permis une sorte de méta-jeu, un gigantesque jeu qui connecterait tous les espaces virtuels. Et ce personnage meurt. Ou plutôt, il tombe dans le coma, un grave coma où il est entre la vie et la mort. Et son avatar continue à vivre en ligne, son avatar harlequin, quoi, son avatar de tous les mondes virtuels, autant jeux que réseaux sociaux, continue à vivre avec la célébrité qu'il pouvait avoir lui et être connu par les autres. Et ce personnage sort de son coma, revient à la vie. Mais son avatar existe toujours. Et... je ne vais pas raconter la suite du bouquin, mais tout s'entrelace entre la vie passée, les vies, je parle clairement au pluriel, construites dans des univers virtuels, dans des jeux, et cet avatar. Et je pense aussi qu'on pourrait trouver des exemples de littéraux, réels aujourd'hui, de joueurs qui sont de fait... peut-être encore vivant en chair et en os, et qu'on un ou des avatars morts dans des jeux et qui ont une célébrité, une existence, et peut-être qu'ils les font revivre parfois. Et peut-être inversement, alors là on n'y est pas encore, mais moi, quand j'entends parler d'IA aujourd'hui, je ne serais pas surpris que demain des avatars continuent à vivre dans des jeux vidéo. Et dans les jeux, quand on croise un personnage qui n'est pas un joueur humain, qui est piloté par la machine, par l'ordinateur, par des formes de petites intelligences artificielles, mais qui font tout pour faire en sorte que ce personnage semble se comporter de manière réaliste. On appelle ça des PNJ, des personnages non-joueurs. Et je pense qu'il y a un truc qui est en train de se passer doucement dans le jeu vidéo, clairement lié aux technos actuels et aux IA, qui pourrait amener à venir tisser des entrelacs bizarres entre la vie et la mort dans le jeu vidéo. Il existe, là, à nouveau, j'aurais pas la référence, mais il y a un YouTuber qui s'était aventuré dans un vieux jeu en ligne, je crois que c'est Ultima, un des premiers jeux MMORPG en ligne, et dont un serveur avait été maintenu, donc il y est allé, le serveur était désert, il n'y a personne, et tout à coup, quelqu'un passe, et il ne sait pas. Alors, on ne sait pas si c'est du vrai, du faux là-dedans, on ne sait pas si c'est quelqu'un d'autre qui s'est connecté, qui a fait exprès, mais c'était très 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 peu probable que ça arrive. Donc il commençait à parler de logique de fantômes dans du jeu vidéo. Et en fait, il y avait tellement peu d'éléments probants, tellement d'éléments de doute, tellement d'éléments de pourquoi pas, qu'on en venait à se dire, bah en effet, pourquoi pas. Je sais pas, en fait. Je sais pas plus que dans notre réalité, qui est la nôtre, c'est quoi la mort dans un jeu vidéo et que peut-il rester dans ces univers persistants en ligne après une mort, outre ce que des joueurs peuvent laisser en construisant sciemment une stèle virtuelle dans un jeu. Que reste-t-il d'autre ? Qu'est-ce qui n'est pas passé ?
Oui, vous faites référence à Skyrim et puis à la stèle. Ça a été donc le second cas qui est explicité dans l'article. C'est le cas d'un joueur de The Elder Scrolls, Skyrim, qui est décédé et son frère a poursuivi la partie, mais sans jamais sauvegarder, afin de toujours revenir sur la dernière sauvegarde de son défunt frère. Et continuer encore et encore l'aventure. Il raconte comment passer du temps à observer les dernières images de son frère, que son frère a vécu, l'a aidé. Et donc ça va même plus loin, puisque la communauté de Skyrim a été touchée par ce récit et a décidé de créer un module, un mood, qui consiste en une stèle fleurie à l'endroit de la dernière sauvegarde, pour perpétuer la mémoire de leur co-joueur.
Mais ça semble humain et naturel et normal ce qu'ils ont fait en fait. Et le fait que ce soit un mode assez intéressant parce que dans le jeu vidéo c'est un usage assez fréquent quand c'est possible, quand les jeux le permettent techniquement, de modifier les jeux pour, je pourrais dire, changer les règles du jeu. Certains jeux très connus ont été issus de mods, c'est-à-dire c'est pas leur éditeur, le studio et le créateur qui l'a fait, mais les joueurs. Et que là on est dans... On est dans de l'anthropologie pure, c'est-à-dire que c'est des usages humains qui se font dans la durée parce que quelque chose commence à acquérir une certaine valeur d'usage culturel pour eux, à savoir le jeu a pour eux un sens profond au point qu'on va venir le bricoler, le modifier pour y ajouter une fonctionnalité qu'on estime nécessaire qui n'est de fait littéralement pas nouvelle humainement parlant. Créer une stèle, construire une stèle à la mémoire de quelqu'un, quoi de plus normal ? Et on pourrait presque se dire, mais pourquoi les développeurs du jeu n'y ont-ils pas pensé au début ?
Je vous remercie, Aymeric Lainé, pour cette sélection, pour avoir traversé avec nous la mort et le deuil dans le jeu vidéo.
Retrouvez plus d'infos et l'actualité de 3 Hit Combo sur le site www.3hitcombo.fr. Et pour participer au Stonefest, le festival de jeux vidéo, rendez-vous en mai 2024 à Rennes. Je suis Lucille Milliard, la réalisatrice. Merci à Mathilde Cuchet pour l'illustration et merci à Florian Kuhn pour la musique. Retrouvez cet épisode sur Canal B et sur toutes les plateformes de podcast. On termine en musique avec une reprise de Lana Del Rey. Le titre, c'est Video Games, interprété ici par The Young Professionals.
Swinging in the backyard, pull up in your fast car, whistling my name. Open up a beer and you say get over here, play a video game. I'm in his favorite sundress, watching me get undressed, take that body downtown. I see you the bestest, leaning for a big kiss, put his favorite perfume on. Go play your video game.
Watching all our friends fall, leaning out.